Coutume de l'île de Céa. Chapitre 3. Si philosopher c'est douter, comme ils disent, à plus forte raison niaiser et fantastiquer, comme je fais, doit être douté. Car c'est aux apprentis à enquérir et à débattre, et aux professeurs de résoudre. Mon professeur, c'est l'autorité de la volonté divine qui nous règle sans contredit, et qui a son rang au-dessus de ces humaines et vaines contestations. Philippe, étant entré à main armée au Péloponnèse, quelqu'un disait à Damidas que les Lacédémoniens auraient beaucoup à souffrir s'ils ne se remettaient en sa grâce. Hé, poltron, répondit-il, que peuvent souffrir ceux qui ne craignent point la mort? On demandait aussi à Agis comment un homme pourrait vivre libre. Méprisant, dit-il, le mourir. Ces propositions et mille pareilles qui se rencontrent à ce propos sonnent évidemment quelque chose au-delà d'attendre patiemment la mort quand elle nous vient. Car il y a en la vie plusieurs accidents pires à souffrir que la mort même. Témoin, cet enfant lacédémonien, pris par Antigone et vendu pour serf, lequel, pressé par son maître de s'employer à quelque service abject, « Tu verras, dit-il, qui tu as acheté. Ce me serait honte de servir, ayant la liberté si à main. » Et, ce disant, se précipita du haut de la maison. Antipater, menaçant âprement les Lacédémoniens pour les ranger à certaines siennes, demande « Si tu nous menaces de pique la mort, répondirent-ils, nous mourrons plus volontiers. » Et à Philippe, leur ayant écrit qu'il empêcherait toutes leurs entreprises, « Quoi, nous empêcheras-tu aussi de mourir ?» C'est ce qu'on dit, que le sage vit tant qu'il doit, non pas tant qu'il peut, et que le présent que nature nous ait fait le plus favorable, et qui nous ôte tout moyen de nous plaindre de notre condition, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. Elle n'a ordonné qu'une entrée à la vie, et sans mille issues. Nous pouvons avoir faute de terre pour y vivre, mais de terre pour y mourir, nous n'en pouvons avoir faute, comme répondit Boiocatus aux Romains. Pourquoi te plains-tu de ce monde? Il ne te tient pas. Si tu vis en peine, ta lâcheté en est cause. À mourir, il ne reste que le vouloir. La mort est partout. La divinité y a pourvu pour le mieux. Il n'est personne qui ne puisse ôter la vie à un homme, mais personne qui lui puisse ôter sa mort. Mille chemins s'ouvrent vers elle. Et ce n'est pas la recette à une seule maladie. La mort est la recette à tout mot. C'est un port très assuré qui n'est jamais à craindre, et souvent à rechercher. Tout revient à un, que l'homme se donne sa fin ou qu'il la souffre, qu'il court au-devant de son jour ou qu'il attende, d'où qu'il vienne. C'est toujours le sien. En quelque lieu que le filet se rompe, il y est tout. C'est le bout de la fusée. La plus volontaire mort, c'est la plus belle. La vie dépend de la volonté d'autrui, la mort de la nôtre. En aucune chose, nous ne devons tant nous accommoder à nos humeurs qu'en celle-là. La réputation ne touche pas une telle entreprise. C'est folie d'en avoir respect. Le vivre, c'est servir, si la liberté de mourir y fait défaut. Le commun train de la guérison se conduit aux dépens de la vie. On nous incise, on nous cautérise, on nous détranche les membres, on nous soustrait l'aliment et le sang. Un pas plus outre, nous voilà guéris tout à fait. Pourquoi n'est la veine du gosier autant à notre commandement que la médiane? Aux plus fortes maladies, les plus forts remèdes. Servius le grammairien, ayant la goutte, n'y trouva meilleur conseil que de s'appliquer du poison à tuer ses jambes, qu'elles fussent podagres, à leur gré, pourvu qu'elles fussent insensibles. Dieu nous donne assez de congés quand il nous met en tel état que le vivre nous est pire que le mourir. C'est faiblesse de céder aux maux, mais c'est folie de les nourrir. Les stoïciens disent que c'est vivre conformément à nature, pour le sage, de se départir de la vie, encore qu'il soit en plein bonheur, s'il le fait opportunément, et au fou de maintenir sa vie, encore qu'il soit misérable, pourvu qu'il soit en la plus grande part des choses qu'ils disent être selon nature. Comme je n'offense les lois, qui sont faites contre les larrons, quand j'emporte mon bien et que je coupe ma bourse, ni des bouts de feu, quand je brûle mon bois, aussi ne suis-je tenu aux lois faites contre les meurtriers pour m'avoir ôté ma vie. » Et Gésias disait que, comme la condition de la vie, aussi la condition de la mort devait dépendre de notre choix. Et Diogène, rencontrant le philosophe Spesippe, affligé de longue hydropisie, se faisant porter en litière, qui lui écria « Le bon salut, Diogène !»« À toi, point de salut, répondit-il, qui souffre le vivre étant en tel état. » De vrai, quelque temps après, Spesippe se fit mourir, ennuyé d'une si pénible condition de vie. Mais ceci ne s'en va pas sans contraste, car plusieurs tiennent que nous ne pouvons abandonner cette garnison du monde sans le commandement exprès de celui qui nous y a mis, et que c'est à Dieu, qui nous a ici envoyés non pour nous seulement, mais pour sa gloire et service d'autrui, de nous donner congé quand il lui plaira, non à nous de le prendre, que nous ne sommes pas nés pour nous, mais aussi pour notre pays. Les lois nous redemandent compte de nous pour leur intérêt et ont action d'homicide contre nous. Autrement, comme déserteurs de notre charge, nous sommes punis en l'autre monde. Puis les lieux les plus proches sont occupés par des ombres accablées, ceux qui, innocents, se sont donné la mort de leurs propres mains et par haine de la lumière ont rejeté le souffle de la vie. Il y a bien plus de constance à user la chaîne qui nous tient qu'à la rompre, et plus d'épreuves de fermeté en Régulus qu'en Caton. C'est l'indiscrétion et l'impatience qui nous hâtent le pas. Nul accident ne fait tourner le dos à la vive vertu. Elle cherche les maux et la douleur comme son aliment. Les menaces des tyrans, les géhennes et les bourreaux l'animent et la vivifient. Telle lieuse émondée par les doubles haches tranchantes sur l'algide fécond en sombre feuillage, au milieu des dommages, au milieu des blessures, elle tire du fer même sa force et sa vie. Et comme dit l'autre, « La vertu ne consiste pas, comme tu le crois, mon père, à craindre la vie, mais à faire front aux pires maux, sans tourner le dos ni reculer. Dans l'adversité, il est facile de mépriser la mort. Il fait preuve d'un plus grand courage, celui qui peut supporter le malheur. » C'est le rôle de la couardise, non de la vertu, de s'aller tapir dans un creux, sous une tombe massive, pour éviter les coups de la fortune. Elle ne rompt son chemin et son train pour orage qu'il fasse. Que le monde se brise et s'écroule, ses ruines la frapperont sans l'effrayer. Le plus communément, la fuite d'autres inconvénients nous pousse à ce tuissi, voire quelquefois la fuite de la mort fait que nous y courons. N'est-ce pas folie, dites-moi, que de mourir par peur de mourir? Comme ceux qui, de peur du précipice, s'y lancent eux-mêmes. Beaucoup ont été jetés dans les plus grands dangers par la crainte même du malheur à venir. L'homme vraiment courageux est celui qui, prêt à affronter les périls s'il le talonne, s'est aussi différé. L'effroi de la mort inspire aux hommes un tel dégoût de la vie et de la lumière du jour que dans leur désespoir, ils se donnent la mort, oubliant que tous leurs maux viennent précisément de cette peur. Platon, en ses lois, ordonne sépulture ignominieuse à celui qui a privé son plus proche et plus ami, savoir et soi-même, de la vie et du cours des destinées, non contraint par jugement public, ni par quelque triste et inévitable accident de la fortune, ni par une honte insupportable, mais par lâcheté et faiblesse d'une âme craintive. Et l'opinion qui dédaigne notre vie, elle est ridicule. Car enfin c'est notre être, c'est notre tout. Les choses qui ont un être plus noble et plus riche peuvent accuser le nôtre. Mais c'est contre nature que nous nous méprisons et mettons nous-mêmes à nonchaloir. C'est une maladie particulière et qui ne se voit en aucune autre créature de se haïr et dédaigner. C'est de pareille vanité que nous désirons être autre chose que ce que nous sommes. Le fruit d'un tel désir ne nous touche pas, d'autant qu'il se contredit et s'empêche en soi. Celui qui désire d'être fait d'un homme ange, il ne fait rien pour lui. Il n'en vaudrait de rien mieux, car n'étant plus, qui se réjouira et ressentira de cet amendement pour lui? Il faut en effet que celui qui doit connaître dans l'avenir des malheurs et des souffrances existe encore lui-même au moment où ces mots pourraient le frapper. La sécurité, l'indolence, l'impassibilité, la privation des maux de cette vie que nous achetons au prix de la mort ne nous apporte aucune commodité. Pour néant évite la guerre celui qui ne peut jouir de la paix, et pour néant fuit la peine qui n'a de quoi savourer le repos. Entre ceux du premier avis, il y a eu grand doute sur ceci. Quelles occasions sont assez justes pour faire entrer un homme en ce parti de se tuer? Ils appellent cela « sortie raisonnable ». Car quoi qu'ils disent, qu'il faut souvent mourir pour causes légères, puisque celles qui nous tiennent en vie et ne sont guère fortes, pourtant y faut-il quelques mesures. Il y a des humeurs fantastiques et sans raison qui ont poussé, non des hommes particuliers seulement, mais des peuples à se défaire. J'en ai allégué par-ci devant des exemples, et nous lisons en outre, des vierges milésiennes, que, par une conspiration furieuse, elles se pendaient les unes après les autres, jusqu'à ce que le magistrat y pourvu, ordonnant que celles qui se trouveraient ainsi pendues, fussent traînées du même licol toutes nues par la ville. Quand Tression prêche Cléomène de se tuer, pour le mauvais état de ses affaires, et ayant fui la mort plus honorable en la bataille qu'il venait de perdre, d'accepter cette autre qui lui est seconde en honneur, et ne donner point loisir aux victorieux de lui faire souffrir ou une mort ou une vie honteuse, Cléomène, d'un courage lacédémonien et stoïque, refuse ce conseil comme lâche et efféminé. « C'est une recette, dit-il, qui ne me peut jamais manquer, et de laquelle il ne se faut servir tant qu'il y a un doigt d'espérance de reste. Que le vivre ait quelquefois constance et vaillance, qu'il veut que sa mort même serve à son pays, et en veut faire un acte d'honneur et de vertu. » Tression se crut dès lors et se tua. Cléomène en fit aussi autant depuis, mais ce fut après avoir essayé le dernier point de la fortune. Tous les inconvénients ne valent pas qu'on veuille mourir pour les éviter. Et puis, y ayant tant de soudains changements aux choses humaines, il est malaisé à juger à quel point nous sommes justement au bout de notre espérance. Il espère encore le gladiateur vaincu dans l'arène cruelle, bien que la foule le condamne de son pouce hostile. « Toutes choses, disait un mot ancien, sont espérables à un homme pendant qu'il vit. »« Oui, mais, répond Sénèque, pourquoi aurais-je plutôt en la tête cela, que la fortune peut toutes choses pour celui qui est vivant, que ceci, que fortune ne peut rien sur celui qui sait mourir ?» On voit Joseph, engagé en un si apparent danger et si prochain, tout un peuple s'étant élevé contre lui, que par raisonnement, il n'y pouvait avoir aucune ressource. Toutefois, étant, comme il dit, conseillé sur ce point par un de ses amis de se défaire, bien lui servit de s'opiniâtrer encore en l'espérance. Car la fortune contourna outre toute raison humaine cet accident, si bien qu'il s'en vit délivré sans aucun inconvénient. Et Cassius et Brutus, au contraire, achevèrent de perdre les reliques de la romaine liberté, de laquelle ils étaient protecteurs, par la précipitation et témérité de quoi ils se tuèrent avant le temps et l'occasion. À la journée de Cérisol, M. d'Anguin essaya deux fois de se donner de l'épée dans la gorge, désespéré de la fortune du combat, qui se porta mal en l'endroit où il était et pensa par précipitation se priver de la jouissance d'une si belle victoire. J'ai vu 100 lièvres se sauver sous les dents des lévriers. Tel a survécu à son bourreau. Le jour qui passe et le travail capricieux du temps inconstant ont amélioré beaucoup de choses. La fortune s'est jouée de beaucoup d'hommes en revenant sur ses pas, avant de les remettre en lieu sûr. Pline dit qu'il n'y a que 3 sortes de maladies pour lesquelles éviter on ait droit de se tuer. La plus âpre de toutes, c'est la pierre à la vessie, quand l'urine en est retenue. Sénèque, celle seulement qui ébranle pour longtemps les offices de l'âme. Pour éviter une pire mort, il y en a qui sont d'avis de la prendre à leur guise. Démocrite, chef des Étoliens, mené prisonnier à Rome, trouva moyen de nuit d'échapper. Mais, suivi par ses gardes, avant que se laisser reprendre, il se donna de l'épée au travers le corps. Antinous et Théodote, leur ville des Pires réduite à l'extrémité par les Romains, furent d'avis au peuple de se tuer tous. Mais le conseil de se rendre, plutôt, ayant gagné, ils allèrent chercher la mort, se ruant sur les ennemis en intention de frapper, non de se couvrir. L'île de Gozo, forcée par les Turcs il y a quelques années, un Sicilien qui avait deux belles filles prêtes à marier, les tua de sa main, et leur mère après qui accourut à leur mort. Cela fait, sortant en rue avec une arbalète et une arquebuse, de deux coups, il en tua les deux premiers Turcs qui s'approchèrent de sa porte. Et puis mettant l'épée au poing, s'alla mêler furieusement où il fut soudain enveloppé et mis en pièces, se sauvant ainsi du servage, après en avoir délivré les siens. Les femmes juives, après avoir fait circoncire leurs enfants, s'allaient précipiter avec eux, fuyant la cruauté d'Antiochos. On m'a conté qu'un prisonnier de qualité, étant en nos conciergeries, ses parents avertis qu'il serait certainement condamné, pour éviter la honte de telle mort, envoyèrent un prêtre pour lui dire que le souverain remède de sa délivrance était qu'il se recommandât à tel saint, avec tel et tel vœu, et qu'il fût 8 jours sans prendre aucun aliment, quelque défaillance et faiblesse qu'il sentît en soi. Il l'en crut, et par ce moyen se défit sans y penser de sa vie et du danger. Scribonia, conseillant Libo, son neveu, de se tuer plutôt que d'attendre la main de la justice, lui disait que c'était proprement faire l'affaire d'autrui que de conserver sa vie pour la remettre entre les mains de ceux qui la viendraient chercher 3 ou 4 jours après, et que c'était servir ses ennemis de garder son sang pour leur en faire curer. Il se lit dans la Bible que Nicanor, persécuteur de la loi de Dieu, ayant envoyé ses satellites pour saisir le bon vieillard Razias, surnommé, pour l'honneur de sa vertu, le père des Juifs, comme ce bonhomme n'y vit plus d'ordre, sa porte brûlée, ses ennemis prêts à le saisir, choisissant de mourir généreusement plutôt que de venir entre les mains des méchants et de se laisser brutaliser contre l'honneur de son rang, il se lit que Razias se frappa de son épée. Mais le coup, pour la hâte, n'ayant pas été bien asséné, il courut se précipiter du haut d'un mur au travers de la troupe, laquelle s'écartant et lui faisant place, il chut droitement sur la tête. Ce néanmoins se sentant encore quelques restes de vie, il ralluma son courage, et s'élevant en pied, tout ensanglanté et chargé de coups, et fendant la presse, donna jusqu'à certains rochers coupés et précipiteux, où n'en pouvant plus, il prit par l'une de ses plaies à deux mains ses entrailles, les déchirant et froissant, et les jeta à travers les poursuivants, appelant sur eux, et attestant la vengeance divine. Des violences qui se font à la conscience, la plus à éviter, à mon avis, c'est celle qui se fait à la chasteté des femmes. D'autant qu'il y a quelques plaisirs corporels, naturellement mêlés parmi, et à cette cause, le désaccord n'y peut être assez entier, et semble que la force soit mêlée à quelque volonté. L'histoire ecclésiastique a en révérence plusieurs tels exemples de personnes dévotes qui appelèrent la mort à garant contre les outrages que les tyrans préparaient à leur religion et conscience. Pélagie et Sophronie, toutes deux canonisées, celle-là se précipita dans la rivière avec sa mère et ses sœurs pour éviter la force de quelques soldats. Et celle-ci se tua aussi pour éviter la force de Maxence, l'empereur. Il nous sera à l'aventure, honorable au siècle à venir, qu'un savant auteur de ce temps, et notamment parisien, se mettent en peine de persuader aux dames de notre siècle de prendre plutôt tout autre parti que d'entrer en l'horrible conseil d'un tel désespoir. Je suis Marie qu'il n'a su, pour mêler à ses comptes, le bon mot que j'appris à Toulouse d'une femme, passée par les mains de quelques soldats. « Dieu soit loué, disait-elle, qu'au moins une fois en ma vie, je m'en suis saoulé sans péché. » À la vérité, ces cruautés ne sont pas dignes de la douceur française. Aussi, Dieu merci, notre ère s'en voit infiniment purgée depuis ce bon avertissement. Suffit qu'elle dise « Nenni » en le faisant, suivant la règle du bon maraud. L'histoire est toute pleine de ceux qui, en mille façons, ont changé à la mort une vie peineuse. Lucius Aruncius se toi pour, disait-il, fuir et l'avenir et le passé. Granius Silvanus et Status Proximus, après être pardonnés par Néron, se tuèrent, ou pour ne vivre de la grâce d'un si méchant homme, ou pour n'être en peine une autre fois d'un second pardon, vu sa facilité aux soupçons et accusations à l'encontre des gens de bien. Spargapizès, fils de la reine Thomyris, prisonnier de guerre de Cyrus, employa à se tuer la première faveur que Cyrus lui fit de le faire détacher, n'ayant prétendu autre fruit de sa liberté que de venger sur soi la honte de sa prise. Bogès, gouverneur en Éion de la part du roi Xerxès, assiégé par l'armée des Athéniens sous la conduite de Simon, refusa la composition de s'en retourner sûrement en Asie avec son revenu, impatient de survivre à la perte de ce que son maître lui avait donné en garde, et après avoir défendu jusqu'à l'extrémité sa ville, n'y restant plus à manger, jeta premièrement en la rivière de Strymon tout l'or et tout ce de quoi il lui sembla l'ennemi pouvoir faire plus de butin. Et puis, ayant ordonné allumer un grand bûcher et d'égorger femmes, enfants, concubines et serviteurs, les mit dans le feu, et puis soi-même. Ninashtehuen, seigneur indien, ayant senti le premier vent de la délibération du vice-roi portugais de le déposséder, sans aucune cause apparente, de la charge qu'il avait en Malacca, pour la donner roi de Campare, prit à part soi cette résolution. Il fit dresser un échafaud plus long que large, appuyé sur des colonnes, royalement tapissé et orné de fleurs, et de parfums en abondance. Et puis, s'étant vêtu d'une robe de drap d'or, chargée de quantités de pierreries de haut prix, sortit en rue, et par des degrés monta sur l'échafaud, en un coin duquel il y avait un bûcher de bois aromatique allumé. Le monde accourut voir à quelle fin ces préparatifs inaccoutumés. Ninashtehuen remontra d'un visage hardi et malcontent l'obligation que la nation portugaise lui avait, combien fidèlement il avait versé en sa charge, qu'ayant si souvent témoigné pour autrui, les armes à la main, que l'honneur lui était de beaucoup plus cher que la vie. Il n'était pas pour en abandonner le soin pour soi-même. Que fortune lui refusant tout moyen de s'opposer à l'injure qu'on lui voulait faire, son courage au moins lui ordonnait de s'en ôter le sentiment et de ne servir de fable au peuple et de triomphe à des personnes qui valaient moins que lui. Ce disant, il se jeta dans le feu. Sextilia, femme de Scaurus, et Paxéa, femme de Labéo, pour encourager leur mari à éviter les dangers qui les pressaient, auxquels elles n'avaient part que par l'intérêt de l'affection conjugale, engagèrent volontairement la vie pour leur servir, en cette extrême nécessité, d'exemple et de compagnie. Ce qu'elles firent pour leur mari, Cosseius Nerva le fit pour sa patrie, moins utilement, mais de pareil amour. Ce grand jurisconsulte, fleurissant en santé, en richesse, en réputation, en crédit près de l'empereur, n'eut autre cause de se tuer que la compassion du misérable état de la chose publique romaine. Il ne se peut rien ajouter à la délicatesse de la mort de la femme de Fulvius, familier d'Auguste. Auguste ayant découvert qu'il avait éventé un secret important qui lui avait fié, un matin qu'il vint voir, lui en fit une maigre mine. Il s'en retourne au logis, plein de désespoir, et dit tout piteusement à sa femme qu'étant tombé en ce malheur, il était résolu de se tuer. Elle, tout franchement, « Tu ne feras que raison, vu qu'ayant assez souvent expérimenté l'incontinence de ma langue, tu ne t'en es point donné de garde. Mais laisse, que je me tue la première. » Et sans autrement marchander, se donna d'une épée dans le corps. Virius Vibius, désespéré du salut de sa ville assiégée par les Romains et de leur miséricorde dans la dernière délibération de leur Sénat, après plusieurs remontrances employées à cette fin, conclut que le plus beau était d'échapper à la fortune par leurs propres mains. Les ennemis les en auraient en honneur, et Hannibal sentirait de combien fidèles amis il aurait abandonné. Conviant ceux qui approuveraient son avis d'aller prendre un bon souper qu'on avait dressé chez lui, où après avoir fait bonne chère, ils boiraient ensemble de ce qu'on lui présenterait, breuvage qui délivrera nos corps des tourments, nos âmes des injures, nos yeux et nos oreilles du sentiment de tant de vilains maux que les vaincus ont à souffrir des vainqueurs très cruels et offensés. « J'ai, disait-il, mis ordre qu'il n'y aura personne propre à nous jeter dans un bûcher au-devant de ma porte quand nous serons expirés. » Assez approuvèrent cette haute résolution, peu l'imitèrent. 27 sénateurs le suivirent, et après avoir essayé d'étouffer dans le vin cette fâcheuse pensée, finirent leur repas par ce mortel mets. Et, s'entrembrassant, après avoir en commun déploré le malheur de leur pays, les uns se retirèrent en leur maison, les autres s'arrêtèrent pour être enterrés dans le feu de Vibius avec lui, et eurent tous la mort si longue, la vapeur du vin ayant occupé les veines et retardant l'effet du poison, que quelques-uns furent à une heure près de voir les ennemis dans Capoue, qui fut emporté le lendemain, et d'encourir les misères qu'ils avaient si chèrement fuies. Thorea Jubelius, un autre citoyen de là, le consul Fulvius retournant de cette honteuse boucherie qu'il avait faite de 225 sénateurs, le rappela fièrement par son nom, et l'ayant arrêté, « Commande, fit-il, qu'on me massacre aussi après tant d'autres, afin que tu te puisses vanter d'avoir tué un beaucoup plus vaillant homme que toi. » Fulvius le dédaignant, comme insensé, aussi que sur l'heure il venait de recevoir lettre de Rome contraire à l'inhumanité de son exécution, qui lui liait les mains, Jubelius continua. « Puisque mon pays prie, mes amis morts, ayant oxy de ma main ma femme et mes enfants pour les soustraire à la désolation de cette ruine, il m'est interdit de mourir de la mort de mes concitoyens, empruntons de la vertu la vengeance de cette vie odieuse. » Et tirant un glaive qu'il avait caché, s'en donna au travers de la poitrine, tombant renversé, mourant aux pieds du consul. Alexandre assiégeait une ville aux Indes, ceux de dedans se trouvant pressés, se résolurent vigoureusement à le priver du plaisir de cette victoire et s'embrasèrent universellement tous avec leur ville, en dépit de son humanité. Nouvelle guerre. Les ennemis combattaient pour les sauver, eux pour se perdre, et faisaient pour garantir leur mort toutes les choses qu'on fait pour garantir sa vie. Astapa, ville d'Espagne, se trouvant faible de murs et de défenses pour soutenir les Romains, les habitants firent amas de leurs richesses et meubles en la place, et ayant rangé au-dessus de ce monceau les femmes et les enfants, et l'ayant entouré de bois et matière propre à prendre feu soudainement, et laissé 50 jeunes hommes d'entre eux pour l'exécution de leur résolution, firent une sortie où, suivant leurs vœux, à faute de pouvoir vaincre, ils se firent tous tuer. Les 50, après avoir massacré toute âme vivante éparse par leur ville, et mis le feu en ce monceau, s'y lancèrent aussi, finissant leur généreuse liberté en un état insensible, plutôt que douloureux et honteux, et montrant aux ennemis que, si fortune l'eût voulu, ils eussent eu aussi bien le courage de leur ôter la victoire, comme ils avaient eu de la leur rendre effrustratoire et hideuse, voire immortelle à ceux qui, attirés par la lueur de l'or coulant en cette flamme, s'en étant approchés en bon nombre, y furent suffoqués et brûlés, le reculer leur étant interdit par la foule qui les suivait. Les Abidéens, pressés par Philippe, se résolurent d'eux-mêmes, mais étant pris de trop court, le roi, qui eut horreur de voir la précipitation téméraire de cette exécution, trésors et les meubles qu'ils avaient diversement condamnés au feu et au naufrage saisis, retirant ses soldats, leur concéda 3 jours à se tuer, avec plus d'ordre et plus à l'aise, lesquels ils remplirent de sang et de meurtre, au-delà de toute hostile cruauté, et ne s'en sauva une seule personne qui eut pouvoir sur soi. Il y a infini exemple de pareilles conclusions populaires qui semblent plus âpres d'autant que l'effet en est plus universel. Elles le sont moins que séparées. Ce que la raison ne ferait en chacun, il le fait en tous. L'ardeur de la société ravissant les particuliers jugements. Les condamnés qui attendaient l'exécution, du temps de Tibère, perdaient leurs biens et étaient privés de sépulture. Ceux qui l'anticipaient en se tuant eux-mêmes étaient enterrés et pouvaient faire testament. Mais on désire aussi quelquefois la mort pour l'espérance d'un plus grand bien. « Je désire, dit saint Paul, être dissous pour être avec Jésus-Christ. » Et Qui me déprendra de ces liens ? Cléombrote, dans Brassy, ayant lu le Phédon de Platon, entra en un si grand appétit de la vie à venir que sans autre occasion, il s'alla précipiter en la mer. Par où il apparaît combien improprement nous appelons désespoir cette dissolution volontaire à laquelle la chaleur de l'espoir nous porte souvent, et souvent une tranquille et rassise inclination de jugement. Jacques Duchâtel, évêque de Soissons, au voyage d'outre-mer que fit Saint-Louis, voyant le roi et toute l'armée en train de revenir en France, laissant les affaires de la religion imparfaite, prit résolution de s'en aller plus tôt en paradis. Et, ayant dit adieu à ses amis, donna seul, à la vue d'un chacun, dans l'armée des ennemis, où il fut mis en pièces. En certains royaumes de ces nouvelles terres, au jour d'une solennelle procession, auquel l'idole qu'ils adorent est promenée en public sur un char de merveilleuse grandeur, outre ce qu'ils se voient plusieurs se détaillant les morceaux de leur chair vive à lui offrir, ils s'en voient nombre d'autres se prosternant parmi la place, qui se font moudre et briser sous les roues, pour en acquérir après leur mort vénération de sainteté qui leur est rendue. La mort de cet évêque, les armes au poing, a de la générosité plus et moins de sentiment, l'ardeur du combat en amusant une partie. Il y a des sociétés qui se sont mêlées de régler la justice et opportunité des morts volontaires. En notre Marseille, il se gardait au temps passé du venin préparé avec de la ciguë, aux dépens publics, pour ceux qui voudraient hâter leur jour, ayant premièrement approuvé aux 600, qui étaient leur sénat, les raisons de leur entreprise, et n'étaient loisibles autrement que par congé du magistrat et par occasion légitime de mettre la main sur soi. Cette loi était encore ailleurs. Sextus Pompée, allant en Asie, passa par l'île de Céa, de Nègrepont. Il advint de fortune pendant qu'il y était, comme nous l'apprend l'un de ceux de sa compagnie, qu'une femme de grande autorité, ayant rendu compte à ses citoyens pourquoi elle était résolue de finir sa vie, pria Pompée d'assister à sa mort pour la rendre plus honorable, ce qu'il fit, et ayant longtemps essayé pour néant, à force d'éloquence, qui lui était merveilleusement à main, et de persuasion de la détourner de ce dessein, souffrit enfin qu'elle se contentât. Elle avait passé 90 ans en très heureux état d'esprit et de corps, mais lors, couchée sur son lit, mieux parée que de coutume, et appuyée sur le coude, « Les dieux, dit-elle, ô Sextus Pompée, et plutôt ceux que je laisse que ceux que je vais trouver, te sachent gré de quoi tu n'as dédaigné d'être et conseiller de ma vie et témoin de ma mort. De ma part, ayant toujours essayé le favorable visage de fortune, de peur que l'envie de trop vivre ne m'en fasse voir un contraire, je m'en vais d'une heureuse fin donner congé au reste de mon âme, laissant de moi 2 filles et 1 légion de neveux. Cela fait, ayant prêché et exhorté les siens à l'union et à la paix, leur ayant départi ses biens et recommandé les dieux domestiques à sa fille aînée, elle prit d'une main assurée la coupe où était le venin, et ayant fait ses vœux à Mercure et les prières de la conduire en quelque heureux siège en l'autre monde, avala brusquement ce mortel breuvage. Or entretint-elle la compagnie du progrès de son opération. Et comme les parties de son corps se sentaient saisies de froid l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'ayant dit enfin qu'il arrivait au cœur et aux entrailles, elle appela ses filles pour lui faire le dernier office et lui clore les yeux. Pline récite de certaines nations hyperborées qu'en Icelle, pour la douce température de l'air, les vies ne se finissent communément que par la propre volonté des habitants, mais qu'étant là et sous de vivre, ils ont en coutume, au bout d'un long âge, après avoir fait bonne chère, se précipiter en la mer du haut d'un certain rocher destiné à ce service. La douleur et une pire mort me semblent les plus excusables incitations.